Voilà, c'était la troisième carte postale sonore David Brühl de l'IEHCS de Bruxelles. On va à présent parler du livre La petite dernière de Fatima Das. Fatima Das qui avait écrit l'édito cette année pour le festival Désir Désir. L'idée donc c'est de l'inviter pour qu'elle puisse parler de son premier roman qui s'appelle La petite dernière. C'est l'histoire d'une adolescente tiraillée entre ses différentes identités, musulmane, féministe, lesbienne et pratiquante, banlieusarde, dans lequel elle aborde le concept justement d'intersectionnalité. Je vous propose donc d'écouter l'interview que nous avons réalisée la semaine dernière et puis on en reparle juste après. Bonjour Fatima Das, merci d'avoir accepté cette interview. Vous avez sorti votre premier roman en août dernier, La petite dernière, aux éditions Noir sur Blanc, une autofiction sur la quête d'identité d'une Française d'origine algérienne, musulmane, lesbienne et banlieusarde. Selon Fatima Das, votre double fictif, mais aussi votre pseudonyme en tant qu'auteur, grandir, c'est accepter ces multiples facettes qui constituent l'identité, ces multiples facettes qui peuvent être source de discrimination et de discrimination multiple. Dans ce roman, vous abordez le thème de l'intersectionnalité. Expliquez-nous.
Le point de départ d'abord, c'était pour moi de parler d'un personnage qui se sent confronté à la fois à l'envie de vivre pleinement sa sexualité, son amour pour les femmes, et en même temps de ne pas renoncer à sa religion, qui est l'islam. Et ce personnage-là se sent en fait un petit peu morcelé entre les deux et a la sensation de ne pas pouvoir concilier ces deux identités. Donc je suis partie de là au tout début, en fait. Voilà, je voulais questionner le rapport à l'islam, le rapport à la foi, à l'amour de Dieu et le rapport à l'homosexualité. Comment on grandit sans modèle, comment on grandit avec la honte de soi, avec l'impossibilité de dire qui on est, qui on aime, avec qui on a envie d'être, ce qu'on a envie de construire. Et dans un deuxième temps, en fait, ça m'intéressait pas seulement de parler de l'homosexualité de l'islam. C'était bien sûr le point de départ, mais c'était pas central pour moi dans La petite dernière. C'était vraiment d'essayer de parcourir la trajectoire d'une jeune femme qui ne se sent à sa place nulle part, en fait, qui se sent étouffée, qui est asthmatique, qui grandit en banlieue, qui grandit à Clichy-sous-Bois, qui est française, mais qui est aussi d'origine algérienne et qui est toujours dans un entre-deux, en fait. C'est en ça que, pour moi, mon roman parle de l'intersectionnalité, donc d'être discriminée à plusieurs endroits, à l'intersection, en fait, de plusieurs discriminations. Ce personnage-là, il se trouve à l'intersection de plusieurs discriminations, à savoir d'être musulmane en France, d'être une jeune femme, d'être lesbienne, d'être issue des quartiers populaires, etc., etc.
Est-ce que vous vous revendiquez féministe intersectionnelle ?
Tout à fait. Je me revendique comme féministe intersectionnelle. C'est d'ailleurs écrit dans ma bio, qui figure dans mon roman.
Ouais, est-ce que vous pouvez développer pour quelles raisons vous vous sentez justement féministe intersectionnelle ?
Alors, en fait, pendant longtemps, je cherchais en fait un féminisme dans lequel j'allais pouvoir être totalement représentée, j'ai envie de dire, parce que j'avais là toujours la sensation d'être, de devoir dealer, de devoir négocier avec une identité plutôt qu'une autre, d'être trop musulmane, d'être trop lesbienne, d'être trop clichoise. Et en fait, j'ai cherché un féminisme dans lequel j'allais pouvoir me reconnaître entièrement, dans lequel j'allais pas devoir effacer une de mes identités, dans lequel on n'allait pas me demander de rendre des comptes et dans lequel j'allais me sentir totalement libre. Et c'est ce féminisme-là dans lequel je me reconnais parce que c'est celui qui me permet de valoriser mes identités et de les accepter et de les aimer et d'en faire une force et de les revendiquer.
Chaque chapitre commence par « Je m'appelle Fatima Das, je suis la petite dernière, je suis française d'origine algérienne » par exemple. C'est une façon d'affirmer les multiples facettes ?
Alors c'est à la fois comme pour revenir sur aussi certains préjugés ou certaines manières que les autres ont de nous définir, en fait. Je suis musulmane, c'est aussi la perception que les autres ont de nous. Je suis française, là plutôt quand elle est en Algérie, on lui renvoie qu'elle est française, ou dans sa famille, c'est la seule à être née en France, donc on lui renvoie ça. Donc il y a à la fois ce questionnement et cette manière de dénoncer les préjugés, de revenir sur ça, de les questionner, et en même temps de chercher sa voix, de chercher qui est ce « je », qui est Fatima. Qui je suis ? Est-ce que je suis musulmane ? Est-ce que je suis lesbienne ? Est-ce que je suis aussi lesbienne et musulmane ? Est-ce que je suis d'abord lesbienne ? Est-ce que je suis d'abord musulmane ? Et c'est une manière de revenir comme ça sur toutes les identités, de pouvoir les questionner et aussi de pouvoir, oui, quelque part aussi les revendiquer et de dire ça existe. En fait, ça vient aussi du fait que pendant longtemps, moi, je pensais que ça n'existait pas. Et donc, cette manière de revenir sur chaque identité à chaque chapitre, c'est une manière de dire ça existe, je suis, je m'appelle, je veux, j'aime, etc.
On sent aussi que le personnage du livre est tiraillé. Hein. Elle a l'impression de salir, par exemple, son prénom Fatima, qui est celui de la fille cadette du prophète, parce qu'elle est homosexuelle. Pourquoi est-ce qu'elle entretient justement ce sentiment ?
Alors, elle entretient ce sentiment parce que elle grandit avec l'idée que c'est impossible d'être lesbienne et musulmane, que c'est un péché, que c'est quelque chose qu'il ne faut pas être. Et donc, elle grandit avec une honte, en fait, une honte intériorisée, une honte et une détestation de soi. Et c'est impossible pour elle, en fait, d'essayer d'allier ces identités-là, en fait. D'ailleurs, c'est ça que ça raconte, c'est vraiment comment on arrive à un moment donné à sortir de cette honte, à s'en détacher un petit peu et à ne pas renoncer totalement à sa foi, mais à essayer d'en faire quelque chose où on peut, à un moment donné, se sentir apaisé et ne pas avoir à faire de choix.
Oui, parce que justement, elle accorde une grande place à la religion dans le livre.
Tout à fait, et c'est quelque chose qui existe d'abord par héritage. On comprend très vite qu'elle baigne dans une famille musulmane, où on en parle, où ça existe, mais en même temps, où elle n'a pas fait des cours de religion, elle n'a pas eu une éducation totale de cette religion-là, mais en même temps, c'est un héritage. Elle va questionner cette foi et se demander si c'est vraiment ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle est musulmane en fait. Et tout au long du roman, il y a vraiment cette quête pour moi au niveau de la foi, de la volonté de, voilà, de se reconvertir à l'islam, comme si elle était sûre à un moment donné d'être vraiment musulmane et de vouloir être musulmane et d'aimer cette religion-là. Et aussi en même temps que ça calme justement ces tensions-là sur la question du péché, etc.
On sent bien que c'est complexe hein, pour elle finalement de concilier toutes ses identités, ou en tout cas toutes ses facettes.
C'est très complexe parce que en fait, on n'est jamais assez ou jamais. En fait, oui, on n'est jamais assez. C'est-à-dire que Fatima, c'est un personnage qui se sent jamais assez musulmane avec la communauté musulmane, à la mosquée ou avec sa famille. Elle se sent jamais assez algérienne avec sa grande famille en Algérie. Elle se sent plus française parce qu'on lui renvoie qu'elle est française. Quand elle est dans le milieu LGBT, bah, elle est musulmane parce que ça se voit, parce que ça s'entend, parce que voilà. Et en même temps, voilà, elle est toujours soit trop, soit pas assez. Donc pas assez musulmane, pas assez lesbienne, pas assez ci, pas assez ça. Et donc cette sensation d'impossibilité en fait d'exister avec toutes ces identités et cette manière de en fait de toujours devoir en fait un peu choisir quoi. Plus une identité qu'une autre selon les endroits, selon les contextes.
On sent même que parfois elle se rejette elle-même. Je pense à la scène où elle fait preuve de violence envers un camarade parce qu'il est homosexuel et parce qu'il assume son homosexualité. Est-ce que dans cette scène, finalement, elle rejette pas elle-même sa propre homosexualité ?
Bien sûr, ce passage-là, il est très violent et il en dit beaucoup, je crois. Bah, c'est une manière pour elle, en fait, de montrer, oui, tout à fait, de montrer sa haine envers elle-même. C'est-à-dire que ce garçon-là, il ne se cache pas, il ne joue pas de rôle, il est ce qu'il est, quoi. Et donc c'est très difficile pour elle à ce moment-là d'accepter de voir quelqu'un exister par lui-même, s'aimer et revendiquer presque son homosexualité. Et donc cette violence-là, elle montre seulement la détestation de soi et la honte de soi et l'impossibilité d'accepter que d'autres le soient quand on peut pas l'être.
Alors oui, en effet, hein, on sent que c'est compliqué pour elle de concilier ses multiples facettes. Elle rejette ce qu'elle ressent, mais en même temps, elle ne veut pas abandonner aucune de ses facettes. Sinon, est-ce qu'elle aurait le sentiment de se trahir ?
Je pense qu'il y a de ça, bien sûr. Je pense que tout pousse, en fait, à renoncer à une de ses facettes, mais c'est juste impossible, en fait. C'est impossible de renoncer à quelqu'un qu'on aime, comme c'est impossible de renoncer à quelque chose que l'on est, c'est-à-dire quelque chose avec quoi on s'est construit, quoi. Par exemple, ce serait impossible pour moi de renoncer au féminisme autant que à mon homosexualité, par exemple. Et je crois qu'il y a un moment donné où bien sûr que ça fait tension et que ça fait souffrir et que c'est pas tout le temps très serein, mais je pense que le pire, c'est de devoir renoncer ou de devoir choisir entre une identité plutôt qu'une autre.
Alors finalement, elle sait très bien qui elle est. Est-ce que le plus difficile, c'est le regard des autres et les contradictions finalement de la société ?
Oui, je pense que c'est de là que tout part. Je pense que ce mal-être, ces malaises, c'est la société qui les construit et que c'est le regard des autres sur soi qui fait qu'on peut pas se sentir libre, qui fait qu'on peut pas se sentir aimé, qui fait qu'on dit avec cette honte qui est omniprésente et cette haine de soi-même en fait. Et c'est très difficile quand on grandit avec non seulement peu de représentations ou des représentations erronées et en même temps un regard malveillant sur soi.
Alors, votre ouvrage aborde également d'autres thématiques, hein, telles que le classisme, mais aussi l'incompréhension du milieu LGBT parisien envers d'autres altérités. Pourquoi avez-vous choisi d'aborder ces différents sujets dans ce livre ?
Je pense que ça, par exemple, je l'ai abordé, mais pas en profondeur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est un premier pas dans ce roman, mais je pense que j'aborde pas énormément la question de l'islam et de l'homosexualité, un petit peu peut-être en parlant de refuge au passé, etc. Mais je pense que j'ai pas mis j'ai pas énormément creusé là-dessus. Je pense que c'est très important de parler de ça parce que parce que justement, quand on est à la recherche de qui on est, quand on se rend compte qu'on est lesbienne depuis X temps et qu'on a mis du temps à se le dire, à se le formuler et à le partager, on va justement à la recherche de cette communauté-là, donc la communauté LGBT, et on peut être très vite confronté, encore une fois, au regard des autres. Et donc ce regard-là, ça peut être, si tu es de confession musulmane, forcément, si tu bois pas, par exemple, on va te répéter, tu veux pas un verre, alors qu'on sait très bien que tu bois pas. Et ça, en fait, c'est de l'islamophobie ordinaire, en fait. Mais on s'en rend pas compte. Et pour en parler, je pense que pour ça, il faut beaucoup plus entrer dans ce sujet-là. Et je considère que dans ce premier roman, c'est juste un pas vers là. Mm-hmm. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense que au sein même de nos communautés, il y a un travail énorme à faire, sans avoir envie de pointer du doigt ou quoi. C'est juste pour renforcer justement ces liens-là et renforcer ces espaces qui sont censés justement des refuges et faire en sorte que chacun d'entre nous se sente à sa place, parce que nulle part ailleurs on a notre place.
Est-ce que pour terminer cette interview, vous voulez rajouter un mot, le mot de la fin?
Eh bien non, je voudrais juste vous remercier et je suis très contente de pouvoir aborder ces thématiques-là, qui sont très 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 importantes aujourd'hui, et surtout de cette manière-là, voilà, de manière très très apaisée.
Eh bien, merci beaucoup Fatima Das.
Merci à vous.
Voilà, c'était l'interview de Fatima Das que nous avions réalisée la semaine dernière à propos de son livre La Petite Dernière. Corinne Abila, référente action culturelle adulte ici à la bibliothèque de Tours, nous a rejoint sur le plateau pour nous parler justement de la rencontre avec Fatima Das, hein, qui aura lieu ce soir à 18h sur Facebook, sur la page Facebook de Désir Désir. Une interview que vous avez justement réalisée parce que vous êtes aussi partenaire du festival Désir Désir.
Oui, bonjour. Alors déjà, je suis très heureuse qu'on soit ici aujourd'hui à la bibliothèque comme lieu d'accueil de ce direct radio à l'occasion du 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, parce qu'on se doit d'être à la bibliothèque, un lieu de débat public. Donc en effet, on a rencontré avec Romain de Désir Désir, on a interviewé Fatima Das il y a 15 jours.
Oui.
On a fait une interview à deux voix, de façon à croiser un petit peu les approches, parler à la fois du roman d'un point de vue littéraire, parce que c'est un premier roman, au-delà du propos, il y a une vraie plume. Et donc Romain, lui, abordait plus les questions autour de l'intersectionnalité qu'elle revendique pleinement. Mm-hmm. Au début, donc, c'est Mickaël qui est venu nous rencontrer, on devait être fin septembre, début octobre, pour nous proposer donc, de recevoir Fatima Das autour de son roman La Petite Dernière. Le temps de lire le roman, ça a tout de suite fait sens pour nous.
C'est pas la première fois, hein, je crois, que la bibliothèque est partenaire du festival Désir Désir. Peut-être pas chaque année, mais en tout cas régulièrement, vous menez des actions ici à la médiathèque. De quelle manière?
Alors c'est ça. En fait, on a commencé, c'est notre première collaboration, elle date de 2012. Mm-hmm. Et depuis, on a eu plusieurs événements, on a eu des conférences, on a eu des expositions, il y a eu des lectures, à la fois sur des sujets, des thèmes à chaque fois très variés. On a suivi les propositions du festival. Mais c'est la première fois, en tout cas, qu'on s'engageait ensemble sur une rencontre littéraire. Parce que c'est vrai que pour nous, ce roman, en fait, on avait envie de le porter. Mm-hmm. Je trouve que sur un premier roman, elle ose tout, avec beaucoup de maîtrise, parler du rapport entre la religion et la sexualité. C'est une thématique qui est peu présente dans l'édition littéraire. Elle le fait en plus avec beaucoup de style. C'est un roman pour nous qui est super facile à conseiller. Elle a une écriture très directe, très oralisée, jeune, elle a 25 ans. C'est un roman qui est dans l'air du temps, qui répond à un vrai manque de représentation. Et dans nos collections, on est tenu aussi à permettre à chacun, en fait, de s'identifier, de se construire. On doit être le reflet de la société. Mm-hmm. Donc on a saisi vraiment l'occasion de mettre en avant le roman. C'est en plus un premier roman, c'est ce que je disais, elle a 25 ans. Et pour nous, mettre en avant des nouveaux auteurs, c'est ça important. Fait partie aussi de notre mission. Mm-hmm. Voilà. Elle a eu en plus une très belle promo dans les médias. Les propos élogieux aussi de Virginie Despentes, oui. Enfin, on ne pouvait pas passer à côté de toute façon. Donc l'interview, il a duré une heure.
D'accord.
Il y a Joanne qui a parlé tout à l'heure, là, qui est juste derrière, qui a fait un super travail de montage.
Oui.
Il y a la bande passante n'était pas forcément très bonne du côté de Fatima Naz. Et au total, j'ai eu l'occasion de voir l'interview monter. Ça fait 23 minutes.
Alors, comment ça va se passer justement ce soir? Comment ça va être diffusé? Sous quelle manière?
Alors, donc, c'est diffusé. Donc, la vidéo, elle sera diffusée à partir de 18h,
ouais,
sur le site Facebook et Instagram de Désir Désir.
Ouais, sur les
et
pages.
Et en même temps, sur le site Facebook de la bibliothèque.
D'accord.
Et ça sera aussi sur notre chaîne, la chaîne YouTube de la bibliothèque de Tours.
Eh bien, parfait. On retient donc l'horaire 18h ce soir pour écouter l'interview que vous avez réalisée avec Fatima Naz.
Très bien, merci.
Merci beaucoup Corinne Abdila. Je vais passer à présent la parole à Arnaud pour l'interview du duo Grande qui va clôturer cette émission avec un live dans quelques instants.
Tout à fait.